France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Ça s'appelle la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Et à l'époque, c'est une révolution surtout parce qu'on part de très très loin. Enfin, on reconnaît les handicaps, on les distingue en quatre catégories, on proclame le droit à l'accessibilité, à l'école, à l'emploi, à la compensation aussi parfois. Si on compare les chiffres avant et après 2005, bien sûr que mille choses ont changé. Mais si on regarde de plus près, les transports accessibles, les enfants scolarisés, le taux de chômage et tant d'autres choses, on se rend compte que le chemin à parcourir est encore une pente très raide. Ce soir, nous avons voulu surtout nous adresser à ceux qui sont nés avec cette loi, dont peut-être les parents ont cru qu'ils allaient grandir sans que leur handicap soit un frein aussi violent que pour leurs aînés. Nous avons voulu nous adresser à ceux qui ont 20 ans et vivent en situation de handicap, quel que soit ce handicap. 20 ans, c'est l'âge des études, bien sûr, qui suit exactement la formation qu'il souhaitait dans un environnement adapté. 20 ans, c'est l'âge des études parce qu'on sort du lycée, mais qui a pu bénéficier d'une scolarité inclusive comme la loi le promettait? On ne parle pas seulement des handicaps physiques, mais bien aussi, et ils sont plus nombreux d'ailleurs, des handicaps psychiques, des handicaps qui sont parfois invisibles. 20 ans, c'est l'âge des copains, des fêtes, des nuits qui poussent jusqu'au matin. Mais que dit le regard des autres, aujourd'hui encore, en 2025, et oserais-je le dire, pardon pour ce qui va devenir une sorte de tarte à la crème, mais quelques mois seulement après les Jeux Paralympiques. Par ailleurs, il ne suffit pas toujours d'avoir une appli pour qu'un taxi vienne vous chercher après une soirée. Le métro, on n'en parle même pas. 20 ans, c'est l'âge des sorties ciné, mais y a-t-il vraiment un accès? 20 ans, c'est l'âge de l'insouciance. Peut-on être insouciant quand on a 20 ans en situation de handicap? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
La première, c'est vous, Yana, vous êtes à Aix-en-Provence et on vous salue, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors, je m'appelle Yana. Moi, je suis étudiant en Master 2 de droit à la faculté d'Aix-en-Provence et je suis déficient visuel. J'ai créé une association pour permettre aux étudiants en situation de handicap de pouvoir être actifs dans les milieux culturels et artistiques au sein de la faculté. Et dans ce cadre-là, on a réalisé une exposition en partenariat avec l'ambassade des États-Unis sur la lutte contre les discriminations à l'égard des personnes en situation de handicap. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en rencontrant ces étudiants et étudiantes en situation de handicap, je me suis rendu compte moi-même, avec mon handicap, qu'ils avaient énormément de problématiques et qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas avancé malgré cette loi de 2005. Mmh. En parallèle, on avait réalisé un colloque sur le handicap et le droit et on avait eu la chance d'avoir un doctorant qui avait fait sa thèse sur le handicap. Et il nous avait par exemple donné un chiffre frappant, c'est qu'il n'y a que 4% des étudiants en situation de handicap qui arrivent à avoir un diplôme à la fin des études supérieures, ce qui est très très peu. Il y a énormément de problématiques par rapport à ça, parce que la loi de 2005, en façade, elle est très bien, mais à l'intérieur, qu'en est-il en réalité?
Vous, par exemple, Yana, est-ce que la fac était déjà équipée, ou c'est parce que vous êtes arrivée qu'on a équipé la fac pour les non-voyants ou les malvoyants? Comment ça s'est passé?
Moi, il n'y avait pas forcément d'équipement qui était mis à ma disposition. J'ai dû en fait faire la demande. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants en situation de handicap qui n'osent pas forcément parler en fait. Ils n'osent pas forcément demander leurs droits parce que ce sont des droits. Mais il y a aussi ce problème d'adaptation. Beaucoup d'étudiants en situation de handicap que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre de mon association ont par exemple dit qu'ils avaient du mal en fait ils veulent pas être stigmatisés, ils veulent pas se montrer, ils veulent pas être vus comme des personnes qui auraient un handicap en fait, parce qu'ils veulent s'intégrer. Moi, à l'inverse, j'ai vraiment voulu montrer que mon handicap était une force et que c'était un droit en fait, qu'on devait me mettre à ma disposition du matériel nécessaire.
Et ça a marché donc visiblement, Yana?
Oui, ça a marché, mais j'ai dû me battre. Par exemple, j'ai redoublé ma L1, j'ai redoublé ma L2, et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à parler en fait et à demander aux enseignants et à l'équipe pédagogique qu'en fait, il fallait vraiment une adaptabilité des cours. Donc, on m'a donné l'opportunité de faire, par exemple, mon master 1 et mon master 2 en 2 ans. Au lieu que ce soit un redoublement, on a adapté en fait les études supérieures.
Et dans ces cas-là, j'entends ce que vous dites, parfois il suffit d'insister aussi pour que ça marche vraiment. Merci beaucoup pour ce premier témoignage, Yana. Pour répondre à toutes vos questions autour de cette table, il y a Ghazal Firouzi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'association des personnes de petite taille, il y a Jérémy Borois, bonsoir à vous. Vous êtes le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Merci à tous les deux d'être là. Ce que je retiens, je vais commencer avec vous, Jérémy Bourrois, dans ce que nous dit Yana, c'est faire la demande, insister, dire qu'on est là, faire des pieds et des mains s'il le faut auprès des administrations, de la fac ou d'ailleurs. Il faut être sacrément proactif pour être un jeune handicapé aujourd'hui.
C'est effectivement le cas et l'enseignement supérieur et avec les universités, c'est je crois le plus bel exemple qui nous permet d'illustrer que notre priorité doit être d'abord l'accessibilité. L'accessibilité de nos environnements pour faire en sorte que où qu'on soit, où qu'on aille et quels que soient les droits qu'on veut faire appliquer, nous soyons autonomes. Et donc c'est vraiment vraiment essentiel que les universités, comme les autres endroits, se mettent en capacité d'anticiper sur les besoins des personnes. Les personnes ne devraient pas avoir besoin de demander des adaptations. Alors on a une loi qui prévoit que les aménagements raisonnables doivent être mis en place dans l'emploi et dans l'enseignement supérieur. Et il y a par ailleurs des outils de compensation pour compenser les conséquences du handicap. Mais la priorité doit d'abord être de rendre accessibles les universités. Et c'est, il se trouve, 20 ans après la loi, une des récentes décisions qui ont été prises en concertation avec les personnes concernées pour que, en France, 6 universités soit démonstratrice en matière d'accessibilité. Il y a l'université de Pau, il y a l'université d'Angers, il y a l'université de Bretagne, et qui doivent s'inspirer de ce qu'on fait dans d'autres pays qui montrent que, quand on va à l'université, on peut juste se contenter de faire le choix de ses études et ne pas avoir besoin de demander d'aménagement.
Démonstratrice Ghazal Firouzi pour ces universités, au fond, ça veut dire que ce qu'il faut dire tout le temps, c'est « Attendez, c'est pas si difficile ».
C'est ça.
Parce qu'au fond, il y a des choses qui peuvent être lourdes en aménagement, probablement. Mais l'essentiel, c'est pas si difficile.
Alors...
Ou pas.
Alors, moi, mon parcours était un peu...
Vous êtes en fauteuil, hein, pour que les gens qui nous écoutent comprennent.
Exactement. Alors, je peux aussi me déplacer à pied, voilà. Mais je prends le fauteuil pour les déplacements qui sont plus longs.
Ouais.
C'est vrai que, si je prends mon exemple personnel, j'ai suivi des études en... Alors, d'abord dans le milieu classique.
Je vais vous demander votre âge, pardon.
Oui, alors j'ai 26 ans, okay. Voilà.
On a dit 20 ans, mais vous pouvez rester.
Ok, merci. J'ai eu aussi un peu un parcours de scolarité qui a été un peu chaotique. Au début, j'étais un peu dans le parcours classique public. Et ensuite, je suis venue à Paris pour intégrer une école privée. Donc, c'est vrai que j'ai pas trop eu cet aspect d'accessibilité dans les facs. Mmh. Moi, ça a été un peu plus compliqué, du coup. Notamment en termes d'accessibilité. Parce que l'école n'était absolument pas du tout accessible. Je ne pouvais même pas y aller en fauteuil, parce que l'école refusait que je mette mon fauteuil dans l'enceinte de l'école.
Ah bon ?
Et
mais
oui.
Mais c'est légal, ça, de refuser... je vois Jérémy Bourrois qui ne fait pas du tout avec la tête, c'est pas du tout légal.
Du tout. Voilà.
Donc ça veut dire que ça existe toujours, ça ?
Ça existe toujours, l'école était vraiment à 15 minutes de chez moi, donc on m'a dit non, alors j'étais obligée d'y aller tous les jours en taxi, pour juste 15 minutes de trajet, donc voilà, ça fait des frais en plus. Alors c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire que mon parcours était assez compliqué finalement, parce que voilà, c'est pas que, il y a même pas, enfin, que l'accessibilité qui est en jeu, c'est vraiment tout ce qu'il y a à côté, voilà.
Après, Jérémy Bourrois, ce qui est fou quand on écoute ce que nous dit Ghazal, ce que nous disait notre auditeur tout à l'heure, Yana dit 4% des étudiants handicapés finissent par être diplômés. Ça veut dire en gros, pardon, je vais mettre des guillemets, que si t'as un handicap simple, on va pouvoir t'aider. Dès lors que c'est un peu plus compliqué, c'est une montagne visiblement que personne n'a envie de gravir et de franchir.
Tout à fait, alors que la possibilité de choisir les études qu'on veut suivre et de les réussir, elle est absolument fondamentale. Et je pense que on ne doit pas forcément être dans une démarche de comparer des handicaps qui seraient plus faciles que d'autres. C'est absolument tout le monde qui a ce droit d'aller à l'université ou dans une école écoles d'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, c'est possible, l'accessibilité doit être mise en place. C'est la loi. On a eu pendant longtemps, en France, vous le savez, du fait de la loi, la possibilité de gagner du temps, de prendre du temps, de contourner, de demander des dérogations. Aujourd'hui, depuis septembre 2024, nous sommes dans le régime normal, entre guillemets, d'application de nos lois. Ne pas être accessible, c'est aujourd'hui un délit. Et donc, comme pour tout délit, il faut qu'on puisse sanctionner lorsqu'il y a un refus d'accessibilité, parce que c'est en fait une discrimination et ça doit être reconnu comme tel par la justice. Donc c'est un peu la voie qu'on va suivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est celle en fait d'une judiciarisation de l'accessibilité en France, qui est nécessaire pour qu'on puisse défendre les droits des personnes.
Judiciarisation, ça veut dire on tape sur les doigts, on demande des amendes et il faut que les amendes soient fortes, on va dire les choses clairement, Jérémy Borois, c'est ça que ça veut dire en fait.
Il faut de la fermeté, effectivement. On a trop longtemps considéré l'accessibilité comme une option, alors que c'est une obligation. Et c'est au-delà des amendes, c'est des recours devant les tribunaux qui doivent être engagés.
Une note vocale qu'on découvre ensemble, c'est celle d'Olivier.
Oui, bonjour. Merci pour vos émissions. Je me permettais d'intervenir. On a un enfant en situation de handicap, bon, qui est majeur maintenant, qui a 18 ans, qui est autonome. Mais effectivement, ça dépend complètement des personnes qu'on rencontre. Le primaire, ça s'est bien passé parce qu'il a fallu tout de suite monter au créneau. Le collège, ça a été. Le lycée, un peu moins bien. Et puis alors là, l'enseignement supérieur, c'est la jungle. Donc en fait, il faut se battre tout le temps. C'était ce qu'il a dû faire, lui, quand il est né, en l'occurrence. Et puis c'est ce qu'il faut qu'il fasse tout le temps. Voilà. Donc effectivement, cette loi, elle a fait du bien, mais... On peut pas lâcher, quoi. Faut tout le temps être derrière, faut tout le temps pousser. Voilà, merci.
Il souffle, Olivier. Faut garder la main. Ghazal Firouzi, moi, ce que je trouve fascinant dans le témoignage d'Olivier, c'est que ça dépend tellement de à quel moment, devant quel établissement, voire devant quel prof. Alors en primaire, ça se passe bien parce que j'en sais rien. Il y a un prof qui est génial. Et puis au collège, c'est plus compliqué parce que voilà qu'on fait pas l'effort. Et puis le lycée, on a l'impression que cette situation est y compris au fond à une échelle plus large. Une ville qui fait des efforts, un département qui fait des efforts, une région qui fait des efforts, mais c'est coup de chance qui tout double en fait quand on est en situation de handicap.
Complètement, c'est vraiment, ça dépend vraiment des gens et du milieu où on est, de la ville où on est. C'est vrai que comme, il vient de dire, l'accompagnement est vraiment chouette, enfin est vraiment bien, je dirais, quand on est du coup en maternelle, en primaire, etc., jusqu'au lycée, je trouve que... Enfin, si je prends mon exemple...
Mais vous devez vraiment être représentatif de beaucoup d'autres en petit,
oui.
Ça va. Enfin, exactement. Ça va, c'est pas toujours facile, hein. Il y a des problèmes d'AESH, etc., mais petit, ça va.
Ouais, ça
quand
va.
On grandit, ça devient beaucoup plus compliqué.
Beaucoup plus compliqué, on a vraiment l'impression d'être laissé à l'abandon. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai pris. Parce que en fait, on met tout cet effort et toute cette énergie pour aller dans la ville qu'on veut, pour étudier, faire les études qu'on veut, en fait, parce que on a envie de faire les mêmes études que les autres.
Je vais vous confier un message qu'on a reçu et vous allez me dire, parce que moi il m'a édifié, vous allez me dire si ce serait encore possible aujourd'hui, mais quand je vous écoute, j'ai un peu peur que votre réponse soit oui. Écoutez bien, c'est Ursula qui nous dit ceci, qui nous dit « J'ai eu un accident de train très jeune, à l'âge de 18 ans, j'étais en terminale au lycée, c'était il y a 30 ans. Depuis, bien sûr, les choses ont dû changer, mais voilà ce qu'elle nous explique. Elle nous dit « Je voulais intégrer une fac de lettres, et comme l'établissement n'avait pas d'ascenseur, on m'avait fortement conseillé une autre fac, de droit, parce que la fac de droit, elle, était équipée. Est-ce qu'on est aujourd'hui, rassurez-moi, Jérémy Borois, dites-moi que plus personne ne pourrait dire une chose pareille à une autre Ursula qui aurait 30 ans de moins ?
Je ne peux pas le garantir, mais je pense qu'on le dit moins. Il y a une belle évolution. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut ne pas avoir entendu parler de ces obligations, de la mission de service public qu'ont les universités, les établissements d'enseignement supérieur et, encore une fois, de la loi et du cadre qu'ils doivent appliquer. Il y a énormément de chantiers qui ont été lancés pour que tous les acteurs de la communauté éducative de l'enseignement supérieur s'emparent des droits des étudiants handicapés. Il y a une circulaire qui a été récemment diffusée par le ministère, qui est d'ailleurs disponible aussi en facile à lire et à comprendre. C'est la première circulaire qui centralise tous les droits que doivent connaître et les étudiants concernés et les acteurs, les enseignants, les universités, etc. Mais il y a encore des trous dans la raquette, on le sait, parce qu'on considère encore ces obligations comme une option.
Gazal, est-ce que vous le sortez des fois, vous, le flyer, en disant « Eh oh, j'ai le droit à ça, un accès, un ascenseur, pourquoi il marche pas, l'entrée de la classe ?» Est-ce que ça vous arrive très souvent de dire « Alors, rappel au règlement, voilà comment ça se passe ?»
J'avoue que non, parce que c'est vrai que c'est pas facile aussi de dire « En fait, on est là ». Moi, je sais que je suis un peu introvertie, donc c'est vrai que c'est pas...
Vous n'avez pas l'air introvertie, je vous promets.
Ah bon ?
Tous les introvertis ne font pas le téléphone sonne, je dis ça comme ça.
Bah, pourtant, un peu quand même.
Mais est-ce qu'on vous aide, du coup, Gazal Firouzi ? Parce qu'effectivement, c'est votre personnalité, vous n'avez pas envie d'aller en disant « Mais attention, rappel au règlement ». Est-ce que, y compris maintenant, on est en 2025, vous avez autour de vous des camarades, des gens qui disent « Viens, j'y vais avec toi, réclamer ça ou ça ». Et j'ai un peu peur de votre réponse, là encore.
Bah, c'est vrai que oui et non. Alors, je sais que justement, quand il y a eu ce problème de discrimination à l'école, on m'a dit non, tu peux pas emmener ton fauteuil. Les gens de ma classe se sont quand même révoltés aussi un petit peu. Ah. Ils ont quand même confronté la directrice. La réponse avait quand même été non. Mais c'est vrai que comme c'est privé, c'est vrai que c'est assez différent aussi du public, et donc ils font un peu comme ils veulent, et c'est vrai que moi je voulais vraiment venir là faire mes études, et j'avais pas envie d'avoir encore cette charge mentale de me lancer dans des procédures, etc.
Et je comprends, charge mentale, c'est vraiment le mot qui convient. Je voudrais qu'on retourne au standard. Alors voilà qu'on a deux Cécile au standard. J'ai envie de dire que c'est Cécile 1 qui veut nous parler de la vie de tous les jours.
Oui, alors je sais pas. C'est moi.
Okay. Eh ben écoutez, je ne sais pas moi de là où je suis, mais de toute façon, allez-y, vous êtes la bienvenue.
Bonsoir, merci beaucoup. La vie de tous les jours, effectivement, parce que je vous entendais parler de la vie à la faculté, qui est très très importante, mais aussi il y a l'aspect sociabilité dans la vie de tous les jours. Mmh. Et on parlait de charge, j'entendais le terme charge mentale. En fait, c'est vraiment ça, parce que il faut pouvoir anticiper pour la moindre chose qu'on ait à faire, se rendre à la poste. Voir des amis, peu importe, il faut qu'on se dise, est-ce que je suis en capacité d'y aller ? Quand on peut marcher, ça règle certains problèmes. Moi, j'ai une capacité de marcher, mais qui n'est pas infinie. Mmh. Et puis, c'est aussi de se dire, est-ce que il y a des escaliers ? Est-ce que s'il y a des escaliers, il y a des rampes d'accès ? Est-ce que s'il n'y a pas de rampe d'accès, il y a au moins des ascenseurs ? Et en fait, c'est parfois quelque chose qui nous sort des moments de convivialité qu'on peut avoir, ou de la vie de tous les jours, et où on peut être facilement de mauvaise humeur pour une... En fait, c'est des petites choses qui s'additionnent, dont les gens n'ont pas nécessairement conscience, et qui, mis bout à bout, sont assez contraignants.
Contraignants, voire épuisants, Cécile, je peux comprendre. Hein. Si à chaque personne que vous allez voir, ne serait-ce que pour boire un verre, il faut d'abord dire « Oh, mais alors attends, moi je veux bien, mais est-ce qu'il y a une rampe ? Est-ce qu'il y a un ascenseur ? Comment est l'accès ?» etc. C'est épuisant.
Oui, et puis il y a aussi la fatigabilité physique qui, pour pas mal de handicaps, arrive beaucoup plus rapidement. Donc on se dit, il faut que j'anticipe aussi mon retour, être capable de rentrer chez soi. Et c'est vrai que parfois, on est obligé de se restreindre dans notre vie sociale pour ne pas atteindre notre intégrité physique, pardon. Et je pense que cette question-là, elle doit aussi se poser, parce que les études et le travail, c'est très important pour l'indépendance, évidemment. Mais il y a aussi ce besoin de contact social avec des personnes valides pour qu'ils aient aussi conscience des choses auxquelles on est confronté au quotidien.
Merci beaucoup, Cécile. Elle a raison, Jérémy Beroy, sur toute la ligne. Cécile, c'est hyper important, le contact social, sortir, vivre, être comme tout le monde. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait appuyer sur les jeunes gens au cours de cette émission, parce que avoir 20 ans, en avoir 30, c'est aussi ça. Et si on n'a pas ça dans sa vie étudiante ou dans sa vie de jeune adulte, non seulement on en perd la moitié, mais ça rend malheureux, quoi.
C'est tout à fait ça, et je me permets, si vous voulez bien, de renvoyer encore une fois à nos lois, parce qu'elles prévoient précisément que, avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, que la France a ratifiée en 2010, donc on parle beaucoup des 20 ans de la loi de 2005, c'est normal, c'est une date symbolique, mais en réalité, on a une convention qui va beaucoup plus loin et qui nous oblige beaucoup plus que la seule loi de 2005. C'était la convention de l'ONU, et elle nous dit qu'en matière d'accessibilité, on doit garantir à tout un chacun l'accès à tous les aspects de la vie. Donc c'est aussi cette vie de tous les jours, telle qui fait la vie sociale et la convivialité, etc. Alors, vous voulez revenir sur ce que disait Cécile, sur la charge mentale, sur le sujet de, notamment de l'anticipation dans ces déplacements. Ça suppose deux choses. La première, c'est qu'on ne lâche pas l'affaire sur la question de l'accessibilité pour que tous les cinémas, tous les bars, tous les restaurants, tous les commerces, tout ce qui fait la vie de tous les jours, respecte la loi. Et la deuxième chose, c'est qu'on puisse s'informer avant de partir. Donc là, il y a depuis quelques années des démarches qui peut-être améliorent un petit peu le quotidien. Je pense à la plateforme qui s'appelle Accès Libre, qui est une plateforme publique de la puissance publique pour que tous les ERP, tous les établissements rentennent une base de données sur les informations sur leur accessibilité. Ce qui permet, quand on prépare son déplacement dans telle ou telle ville, eh bien, d'anticiper, de se dire, quand je vais à tel endroit, par rapport à tel handicap, j'ai peut-être ce qu'il faut ou je n'ai pas ce qu'il faut et donc je n'y vais pas et je vais ailleurs. Donc c'est pas la réponse totale, mais elle permet d'anticiper un peu dans la vie.
Alors, dans une grande ville comme Paris, on n'ose même pas parler de métro parce que c'est même pas la peine. On peut parler un peu de bus et encore, si on parle de gare nationale, il y en a 60% qui sont équipés, c'est bien 60%, mais ça veut dire qu'il en reste quand même 40%. 237 gares régionales, voilà les chiffres que j'ai notés dans cette émission. Ghazal Firouzi, quand vous devez sortir, voir des amis, comment vous faites ?
Alors, c'est le parcours du combattant. Il faut toujours prévoir, comme on disait juste avant. Alors, moi, j'ai eu de la chance d'avoir mes amis qui sont venus de Tours avec moi. Donc, ils connaissaient déjà les conditions. Et on avait déjà l'habitude de toujours prévoir les sorties, etc. Donc, ils ont encore cette habitude de s'adapter vachement à ce qu'on fait. Et donc, on fait la même chose à Paris. C'est toujours prévoir ou alors on essaye de rester dans les alentours de chez moi. Et donc on fait comme ça parce que c'est
vous
ça.
Avez l'appli aussi dont parlait Jérémy Borois.
Pas du tout.
Ah, vous n'avez pas l'appli?
Pas du tout. Non. Je vais l'installer. Juste
il faut totalement installer cette application.
Ouais, complètement.
C'est important. On est en train de parler des 20 ans de la loi handicap et surtout des jeunes gens qui sont nés avec cette loi et qui étaient en droit de vivre nettement mieux que leurs aînés. C'est le cas parfois et c'est pas toujours le cas. C'est important de le dire. Je voudrais qu'on rejoigne Benoît Serre qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le vice-président de l'ANDRH, Benoît Serre, Association Nationale des DRH. On a parlé des étudiants, on parle de la vie de tous les jours. Évidemment, on ne peut pas ne pas aller sur le terrain du travail. Dites-nous ce qui bloque les entreprises. Est-ce que c'est l'argent pour les infrastructures quand il le faut ? Est-ce que c'est la volonté ? Parce que il y a eu des progrès, là aussi, en 20 ans. On ne va pas dire que rien ne s'est passé en 20 ans, mais il y a encore un chemin énorme à parcourir.
Oui, il y a encore beaucoup de chemin. Alors, parmi les causes, vous les avez citées, il y a des sujets d'adaptation, donc de moyens. Souvent, les grandes entreprises arrivent peut-être à le faire assez bien, les PME moins. Après, vous avez des sujets de capacité d'accueil. Il y a plusieurs types de handicap, on le sait. Je pense que quand vous regardez les chiffres, les sujets sur le handicap physique sont meilleurs. Ils sont pas satisfaisants, mais ils sont meilleurs. Le handicap mental, les syndromes autistiques, les éléments de schizophrénie, c'est beaucoup plus difficile parce que là, vous avez un impact de fonctionnement et, il faut le dire, une forme de peur quelquefois.
Est-ce que le télétravail, par exemple, Benoît Serre, qui s'est tellement développé, n'est pas typiquement le vecteur qui peut très largement augmenter la place des personnes en situation de handicap dans le monde du travail ? Alors, non pas que je veuille, mais je vois Jérémy Borois qui fait comme ça avec la tête, non pas que je veuille qu'on les cache, mais je me dis que ça peut être aussi un moyen plus simple de maintenir les personnes en situation de handicap dans le travail.
En fait, ça a eu deux impacts. Alors, le premier point, j'ai pas vu le visage de Jérémy, mais effectivement, il faut pas non plus que, c'est-à-dire que vous avez travaillé handicapé, qu'il soit en dehors de l'entreprise. Donc, du coup, je pense que ça, c'est pas. Par contre, l'avantage du télétravail, c'est que ça a forcé beaucoup d'entreprises à adapter leur système informatique et ça crée des conditions plus favorables pour créer des organisations de travail qui soient moins contraignantes. Notamment, vous l'avez évoqué juste avant, sur les problèmes de transport. Mmh. Donc, ça permet d'accorder un certain nombre de jours de travail à des collaborateurs ou des collaboratrices handicapées et donc de faire peser moins lourd les difficultés de déplacement.
Restez avec nous, Benoît Serre. Pardonnez-moi, oui. Juste une seconde, Jérémy Bourroy, j'aimerais bien que vous réagissiez parce que je vous ai vu bouger, je comprends. Est-ce que ça vous choque, en fait, parce qu'il y a un côté... je peux comprendre parce que je l'ai entendu en même temps que je le disais. Ils ont qu'à rester chez eux, de toute façon, comme ça, ils travailleront, ils seront devant leur ordi.
C'est effectivement le RIC. Le télétravail est absolument essentiel, mais à la condition que ce soit pour que... tout le monde est acté au même choix et dans les mêmes conditions par rapport à tes contraintes et que tu ne sois pas une réponse par défaut. Disons, elle n'a pas besoin de se déplacer, la personne. Elle n'a pas besoin de venir nous demander l'accessibilité des bureaux. Elle n'a pas besoin d'aménagement. Elle reste chez elle et on est tranquille. Je pense que là, ça ne va pas forcément favoriser la rencontre et la vie sociale. Nous devons vraiment faire en sorte que les environnements de travail soient accessible et que on puisse s'y rendre et s'y épanouir et progresser dans son boulot. C'est absolument essentiel.
Benoît Serre, je vous ai interrompu. Pardon, vous étiez dans votre deuxième point.
Non, le deuxième point, c'est que on a beaucoup travaillé, notamment à cause du télétravail, du Covid, de tout ce que vous savez, sur l'adaptation des systèmes informatiques. Et donc, il y a quelquefois aujourd'hui des dispositifs qui sont bien meilleurs. En plus, l'IA nous permet quand même de développer un certain nombre de choses d'accessibilité, notamment pour les malentendants ou pour les malvoyants. Donc, on voit bien que la technologie nous aide et que tout ce qu'on a dû faire comme adaptation pour favoriser le télétravail sert aussi aux personnes en situation de handicap ou au moins à une partie d'entre elles. Et maintenant, je partage le point qu'il faut surtout qu'ils soient aussi dans l'entreprise, parce que sinon, s'ils ne sont pas dedans, vous ne faites qu'aggraver les espèces de stéréotypes ou de peurs que vous avez par rapport à des personnes qui ont des handicaps visibles. Je rajoute juste un point,
allez-y,
qui est le traitement du handicap non visible. Ça, c'est extrêmement important de laisser, s'ils le souhaitent, des gens révéler leur handicap invisible. Et on se rend compte assez vite qu'il y a beaucoup de situations comme ça qu'on ne soupçonnait même pas. Ça fait partie de l'acculturation de tout le monde.
Vous disiez, Benoît Serre, tout à l'heure, enfin Jérémy Bourroy plutôt disait, maintenant, au bout de 20 ans, il va falloir commencer à taper du poing sur la table. Et en toute chose, il faudra commencer à être plus coercitif. Donc ça veut dire que les amendes, il faut qu'elles soient là, il faut qu'elles soient fortes, et il faut qu'elles soient payées. Qu'est-ce que le chef d'entreprise que vous êtes, ou en tout cas DRH que vous êtes, répond à ça ?
Bon, d'abord, je pense qu'effectivement, il y a déjà un certain nombre de sanctions. Les alourdir ne rendront pas les gens forcément. Vous savez, c'est beaucoup une question aussi de volonté des dirigeants, cette histoire-là. Ça, c'est un premier point. Donc, pourquoi pas, mais je suis pas sûr que ça résoudrait durablement le sujet. Après, je parle sous le contrôle d'un expert, mais il y a eu le changement de la loi où on comptait plus de la même manière. Vous savez, avant, on comptait les salaires des handicapés en intégrant les fournisseurs, un certain nombre de fournisseurs, pas tous. Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc les chiffres ont baissé. Moi, je pense que ça a été une erreur, cette loi, non pas pour faire monter les chiffres de manière théorique, mais simplement parce que ça crée un écosystème qui intégrait le handicap dans les modèles de production d'entreprise, qu'elle soit qu'il soit direct ou indirect, qu'il soit intégré ou pas intégré. Donc, je pense que ça a été une petite erreur de loi, parce que ça n'a pas arrangé les chiffres, en réalité.
Merci beaucoup.
Troisième élément, je presque fini sur le sujet de... Malheureusement, je ne suis pas certain que alourdir les sanctions changera quoi que ce soit, parce que vous avez un sujet aussi de capacité d'adaptation des PME et des PMI, c'est pas de leur faute, mais ça coûte extrêmement cher d'adapter les choses. Elles le font quand elles le peuvent, au maximum qu'elles le peuvent.
Merci beaucoup. Merci à vous, Benoît Serre. Il y a Jérémy Bourroy qui veut réagir. Capacité d'adaptation, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Effectivement, la loi est la loi et les droits sont les droits. Je pense que ça ne se négocie pas. Donc, il n'y a pas de tolérance ou je ne sais quoi à avoir. Je pense que les droits, le cadre de la loi, de la convention, on le connaît. Ça fait 20 ans, donc personne ne peut dire aujourd'hui on est en difficulté,
on peut pas découvrir,
on sait pas comment faire, etc. Donc qu'on trouve les moyens d'encourager, d'accompagner, de donner des pistes, des idées, de faire découvrir les nouvelles solutions qui se développent, etc. pour que personne ne renonce à tout qu'il y a à faire, bien évidemment. Mais non, il faut être vraiment très ferme par rapport à la loi, c'est essentiel.
On va rester dans le domaine du travail avec vous, Cécile, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, j'ai effectivement un témoignage à apporter par rapport à mon fils, qui est porteur d'un handicap invisible, puisqu'il est atteint à la fois de d'autisme, trouble du spectre autistique, dysphasie, qui va avoir 20 ans cette année, et qui jusqu'à présent a eu un parcours absolument idéal. Il a été accompagné par une AVS, il a eu un parcours en PIF, puis en IME, il a fait des stages en restauration dans un domaine qui lui plaît énormément, stages qui se sont bien déroulés. Et là, nous arrivons à un moment crucial où il va passer en ESAT. Et il a fait un premier stage d'évaluation dans un ESAT, dans le domaine de la restauration. Et là, grande surprise, la salle résonnait énormément, il a été très perturbé par le bruit, et l'accompagnement n'a pas été aussi bienveillant qu'on s'y attendait, à tel point qu'il risque de ne pas être pris dans ce secteur-là, et l'évaluation a conclu au fait qu'il était inadapté pour ce poste. Donc on a été extrêmement surpris, déçus, et on ne sait plus vers quoi se retourner.
Et parce que, du coup, c'est un coup près, Cécile, c'est ce que vous dites, en fait. Alors, est-ce que c'est un coup près ou est-ce qu'il y a moyen de se rattraper, de rentrer par la fenêtre, pardon?
Alors, on aura certainement des moyens, on va se battre, on va trouver des solutions. Il y a des cafés joyeux, il y a des entreprises adaptées, des restaurants dans lesquels peut-être l'accompagnement sera plus bienveillant, peut-être avec moins de couverts, donc on va s'en sortir. Mais c'est vrai que on attendait beaucoup de l'ESAT par rapport à ce qu'on a pu vivre du côté de l'IME, du côté de cet accompagnement bienveillant qui s'adaptait finalement aux spécificités de mon fils.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Cécile. Jérémy Beauroy, c'est important ce passage en fait entre la fin des études et le début du travail. Elle le dit très bien, Cécile, elle dit il y avait eu un accompagnement, c'était doux, c'était bienveillant. Et puis subitement, on se prend d'autres choses dans la figure. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe à chaque fois? Est-ce qu'on se dit il faut aussi s'adapter à ça? Comment ça marche?
Je ne veux pas faire de généralité à la place de tout le monde, mais je pense que c'est peut-être un point commun à beaucoup de jeunes handicapés. Il y a un moment où on sort du
cocon, du quotidien, même si c'est pas facile.
Cocon, comme on veut. En tout cas, le quotidien qui est encadré, qui est confortable, qui est une sorte de routine, puisque c'est la même chose tous les jours, à une vie qui est différente, où tout change du matin au soir, les situations de communication, les lieux qu'on doit fréquenter, etc. Cette découverte-là, elle est nécessaire. Elle est nécessaire bien dans la vie de tout un chacun.
Mais très violente.
Peut-être qu'en réalité, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai pas 20 ans, j'ai 48 ans, mais à 48 ans, je continue de découvrir mon handicap. Je continue d'avoir des surprises, pouvoir anticiper sur tout.
Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a Cécile qui nous raconte l'histoire de son fils qui a un handicap cognitif. Vous nous en parlez, vous qui êtes sourd. On a ici un auditeur qui nous dit qu'il est non-voyant, qu'il a fait des études, il va très bien, ça fait 3 ans qu'il cherche du travail. Donc, au fond, là, quel que soit le type de handicap, Ghazal Firouzi, je pense que c'est le cas pour vous aussi et pour d'autres. Quel que soit le type de handicap, il y a ce moment-là où on est dans le concret, c'est chercher du travail et il y a quand même beaucoup de choses qui tombent.
Exactement. C'est, en fait, on passe dans le cocon, comme vous disiez, à une claque monumentale.
Et en même temps, c'est fou parce que vous dites cocon, c'est le terme que j'ai employé. Avec ce que vous m'avez décrit avant, c'était quand même pas un cocon si confortable malgré tout. mais effectivement, là, le monde du travail, c'est une autre rudesse.
C'est un enfer.
À ce point-là.
Ouais, vraiment, c'est un enfer. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je cherche une alternance. Je ne trouve rien. Donc c'est ça, en fait. C'est aussi accepter quand on est en situation de handicap et qu'on veut faire des études, c'est accepter de se prendre ces claques-là. Et...
Est-ce qu'on vous le dit, Ghazal, on ne peut pas vous prendre parce que vous êtes de petite taille ou parce que vous avez parfois besoin de votre fauteuil, ou est-ce qu'on tourne autour du pot pour vous dire autre chose?
On tourne beaucoup autour du pot. Alors, je teste différentes choses. C'est-à-dire que des fois, j'envoie des CV sans mentionner que je suis en situation de handicap et je me dis, bon, bah, on verra bien ce que la personne... comment réagit la personne une fois qu'elle le verra. Et j'essaye aussi de le mentionner directement. Ou alors, au fil des discussions par mail, etc., je le mentionne. Et là, souvent, c'est « Ah bah non !»
Est-ce qu'en envoyant votre CV, tout va bien, vous êtes reçu, puis vous voyez la mâchoire tomber quand
ça
vous arrivez en entretien
fois.
parce que bah, c'est pas du tout ce que j'attendais.
Ça m'est arrivé une fois, ouais, complètement. Et bah, ouais. C'est dur.
Ouais, ouais, bien sûr
c'est
que
dur,
c'est
on
difficile.
On va pas se mentir.
Bien sûr que c'est difficile. Il est compliqué, nous dit Lynn, quand on a 20 ans, de dire qu'on a un handicap. Parfois, ouais. Il est plus facile de faire semblant d'être valide que de dire qu'on a besoin de quelque chose. C'est triste à dire, mais pour avancer, il faut parfois faire semblant que tout va bien, nous dit cette auditrice. On a Brigitte, vous allez pouvoir nous expliquer, Jérémy Bourroy, qui dit « Pouvez-vous évoquer la situation des étudiants sourds et la difficulté à suivre un cursus universitaire par manque d'interprètes, par exemple ?» Comment on fait quand on est étudiant sourd? Comment vous avez fait, vous?
Alors,
vous
êtes vieux,
vous l'avez dit, vous avez 48 ans.
Comment on fait aujourd'hui? Je pense qu'on galère dans beaucoup de cas. Comment on fera demain, lorsque tes universités, telles que j'évoquais tout à l'heure, et puis ensuite toutes les autres, se mettront en normes, en conformité, eh bien, on anticipera pour faire en sorte que dans tous les lieux, les ressources de traduction, de transcription soient disponibles. On l'a vu dans d'autres pays, c'est tout à fait possible, et c'est un impact en plus
on peut faire
absolument
des retours
fabuleux
de...
sur les personnes, parce que les étudiants ensuite ne renoncent à aucun choix qu'ils peuvent faire et choisissent vraiment la vie qu'ils souhaitent à partir du moment où l'enseignement supérieur est à leur portée.
Choisir la vie que vous souhaitez, c'est vraiment le message qu'on veut que vous donner. Je voudrais remercier la personne qui est derrière votre ordinateur qui fait la transcription en fait de tout ce que nous disons, de tout ce que disent les auditeurs surtout puisque vous savez lire sur mes lèvres. Merci beaucoup à tous les deux, merci à tous pour vos nombreux appels.